Les interviews du SEL, le service d'entraide et de liaison, selfrance.org.
Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle sur les actualités du SEL. Et cette année, la journée du SEL porte sur le thème « Aimer son prochain, mission possible ». À cette occasion, nous avons ouvert un dialogue avec des pasteurs et des théologiens de France et d'Afrique francophone. Nous vous proposons aujourd'hui la première partie d'une interview de Clément Blanc, pasteur en formation dans les Assemblées de Dieu. Il nous conduit dans une réflexion approfondie sur l'amour du prochain, l'usage de l'argent et la générosité. Il répond aux questions d'Élise Clavitaire, chargée de communication digitale au SEL.
Eh bien, juste peut-être déjà pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Que fais-tu ?
Alors, je suis Clément Blanc, je suis en train de devenir pasteur dans les Assemblées de Dieu et je suis en train, avec une équipe, d'implanter une église sur le plateau de Saclay. Donc, c'est à une quinzaine de kilomètres au sud de Paris.
Et ok. Et alors du coup, donc on t'a interrogé, enfin t'as déjà eu un entretien au sujet de aimer son prochain, mission possible. Peut-être juste en une phrase, un peu à quoi ça te fait penser. Enfin,
la question d'aimer son prochain, pour moi, c'est à la fois omniprésent dans la Bible, mais en particulier dans les Évangiles. Donc ça en fait une mission, on pourrait dire primordiale pour le chrétien. Après, c'est à la fois une mission possible et une mission engageante, qui nous remue un petit peu, qui nous pose plein de questions. Donc voilà, c'est ce qui en fait un sujet qui m'intéresse particulièrement.
Et est-ce que, justement, en étant pasteur, tu as déjà eu l'occasion d'échanger avec des gens qui, par exemple, en fait, ne savaient pas trop par quelle boule prendre, comment est-ce que je peux aider mon prochain, comment est-ce que je sais aider mon prochain, enfin, quelles sont un peu les questions qu'on t'a déjà posées en tant que pasteur là-dessus?
Non seulement les questions qu'on peut me poser en tant que pasteur, mais les questions que je me pose moi-même tous les jours, parce que c'est un sujet qui pose question, notamment sur ce que ça peut impliquer en pratique dans nos vies. Quelque chose qui peut revenir régulièrement, c'est cette idée que notre héritage catholique en France nous amènerait à soit diaboliser l'argent, soit que ce soit un sujet tabou, et alors qu'il faudrait dépasser ça et se libérer du carcan historique, sans forcément voir qu'une partie de cet héritage, c'est aussi notre héritage biblique et que on n'a pas simplement à se débarrasser du problème de l'argent, mais le prendre à bras le corps pour voir ce que ça peut impliquer pour nous. Donc, c'est la question qu'on peut me poser aussi, c'est dans le même ordre, de dire, mais il n'y a pas de problème à être riche et chrétien. Le problème, c'est ce qu'on fait de l'argent, c'est pas l'argent lui-même. L'argent est neutre. Et en général, c'est plus dit sur l'affirmation en espérant avoir une confirmation par le pasteur. Alors que je pense que c'est un peu plus compliqué que ça parce que, oui, je serais assez d'accord à dire que l'argent, c'est pas le problème en soi, mais il me semble impossible d'avoir une relation neutre, par contre, avec l'argent. Quelle que soit notre relation, elle est pas neutre et on est invité à avoir une relation renouvelée avec l'argent, justement une relation dans laquelle on peut aimer Dieu et aimer son prochain dans la manière dont on gère notre argent.
Je sais pas si on peut dire comment expliquer, en fait, pourquoi certaines personnes, en fait, ont de l'argent, d'autres pas. Cette question un peu d'inégalité autour de ça et de fait, qu'est-ce que tu dirais en fait à quelqu'un qui te demandait mais comment est-ce que je peux bien gérer mon argent, à la fois en garder suffisamment en fait pour survenir à mes besoins et en même temps être généreux, et en gros jusqu'à quel point en fait doit-on être généreux?
Alors il y a plein de choses dans la question. Rien que sur la première. Qu'est-ce qui fait que certains sont riches et d'autres pauvres, et qu'est-ce que ça implique sur notre regard sur les inégalités? Pour moi, cette question en elle-même est extrêmement complexe. Une chose qui m'aide à clarifier et qui je crois aide d'autres personnes à avoir les idées un peu plus claires, c'est déjà de distinguer entre les revenus et les dépenses, ou entre les revenus et la constitution du capital personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'exemple que je donne. J'étais ingénieur avant. Le simple fait d'être ingénieur et de bien faire mon travail, vraisemblablement, j'aurais été de plus en plus riche pour ce qui est de mes revenus. Et en ça, j'y vois pas quelque chose de condamnable. Alors, bien sûr, il y a différentes entreprises sur différents marchés qui peuvent avoir des sources de revenus plus ou moins discutables. Mais globalement, bien travailler dans un certain nombre de contextes, surtout dans notre contexte occidental, ça implique de devenir riche, en tout cas comparé au reste de la planète. Mais par contre, ça ne dit rien de ce qu'on en fait. Et à mon avis, c'est là où est l'enjeu principal, et c'est comme ça que c'est présenté dans la Bible. C'est d'abord une question de est-ce que je vais accumuler mes richesses ou est-ce que je vais les dépenser d'une manière qui honore Dieu, d'une manière où je peux aimer Dieu et aimer mon prochain. Donc, plus que de se poser la question pourquoi certains ont un petit salaire et d'autres ont un gros salaire, c'est plutôt de dire est-ce qu'il y a un problème quand j'utilise toutes mes ressources pour les accumuler pour moi-même et est-ce que je ne devrais pas plutôt en consacrer une partie pour aimer mon prochain. Ça amène un petit peu à la deuxième et à la troisième question, enfin, autant que je me souvienne de ce que tu me demandais, sur quel conseil pratique, sur comment vivre justement cette responsabilité de la somme que je reçois. Je vois ça comme ça, où, quel que soit mon salaire, c'est une responsabilité plus ou moins grande, on va dire, suivant la taille du salaire, mais c'est quelque chose pour lequel je dois me positionner. Et quelque chose qui aide, c'est déjà de distinguer entre les dépenses où j'ai pas le choix, on va dire en simplifiant logement, nourriture, vêtements, les dépenses de loisirs, d'une certaine manière les vacances, les loisirs du quotidien, et l'épargne. Et en fait, alors c'est très très simplifié parce que la frontière entre les trois est pas du tout claire, mais en simplifiant, on a besoin d'allouer des ressources pour les trois, mais on a besoin de mettre des limites sur les trois, et en particulier sur le loisir et sur l'épargne. Donc, il y a un aspect légitime à épargner. Il ne s'agit pas simplement d'être toujours au minimum. Si on pense par exemple au proverbe, il y a une vertu et une sagesse à ne pas oublier qu'il y a un lendemain à préparer. Mais en particulier dans notre culture, il y a une possibilité à toujours plus épargner et par exemple à investir dans l'immobilier pour toujours plus protéger son avenir. Et là, il y a des paroles très fortes dans la Bible pour nous mettre en garde contre une vie consacrée à nos loisirs ou une vie consacrée à notre épargne. Et si on vit comme ça, on n'aura jamais la marge de manœuvre pour pouvoir partager. Et donc, c'est uniquement en mettant une limite sur ces trois aspects qu'on peut avoir de la marge pour pouvoir partager avec celui qui a besoin.
Donc finalement, en fait, est-ce qu'il y aurait plutôt presque quatre catégories, c'est-à-dire l'épargne, les loisirs, les dépenses essentielles, et ensuite, entre la catégorie générosité, quoi, qu'on réserve finalement pour aider son prochain.
Oui, on pourrait le voir comme ça. Et justement, on pourrait même se poser la question de commencer par mettre de côté la générosité pour s'assurer qu'on mette une limite à notre épargne et à nos loisirs, par exemple. Mais en tout cas, c'est important de voir qu'il y a un lien direct et c'est pas simplement de se dire il faut que je sois généreux, il faut que je sois généreux, sans réaliser que pour être vraiment généreux, j'ai besoin de voir ce que ça implique sur les autres dépenses de ma vie. C'est des vases communicants, et que tant qu'on les voit pas comme des vases communicants, bah on se retrouve à simplement donner les miettes qui restent, s'il reste des miettes.
Parce que du coup, en fait, je me demande aussi, enfin, en tout cas, quelque chose que j'entends souvent, c'est oui, mais j'ai travaillé dur pour avoir ce salaire. Est-ce que, en gros, je le mérite et je mérite de dépenser pour moi-même? Pourquoi finalement, en fait, je donnerais à quelqu'un d'autre ce que moi j'ai mérité et ce pourquoi j'ai travaillé?
Ça peut être un sujet sensible. C'est peut-être l'occasion des fois de tester notre amitié avec la personne lorsqu'on aborde ce sujet. Surtout que ce qui est... pour voir la logique de quelque chose, des fois c'est intéressant de voir l'extrême de cette logique et de voir qu'est-ce qu'on est vraiment en train de dire. Et j'ai eu cette discussion dans des maisons... extraordinairement grande, dans des banlieues absolument sécurisées et isolées de toute réalité, et d'entendre dire « oui, mais j'ai travaillé dur ». Je suis pas sûr de savoir exactement ce qu'on veut dire par « travailler dur » à ce moment-là, parce que une femme de ménage qui travaille dur, elle peut empiler autant d'heures de travail qu'elle voudra. Cette maison de banlieue avec des dimensions surréalistes, elles ne sont pas accessibles. Même l'idée de dire « mais j'ai travaillé dur dans mes études pour avoir un diplôme, pour ensuite avoir un travail qui me permette d'avoir un salaire », et donc c'est l'engagement de toute une vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, on aime bien mettre en avant les success stories de personnes qui, soi-disant, seraient un self-made man, quelqu'un qui se serait fait tout seul, mais c'est simplement inimaginable. On a les chances qu'on a dans la scolarité qu'on a, parce qu'on vit souvent dans telle ou telle ville, avec tel ou tel parent. Toutes les études sociologiques disent que le meilleur moyen de savoir le salaire de la génération suivante, c'est de regarder le salaire des parents, quoi. Il y a une vraie corrélation. Et on peut s'imaginer qu'on a travaillé dur, mais c'est beaucoup moins clair que ça. Donc, moi, je questionnerais déjà cette idée de mon salaire est vraiment proportionnel à mon travail, à mon effort. Voilà. Chaque cas est différent, mais pour moi, dans la plupart des cas, j'ai travaillé entre guillemets dur. Alors, peu de temps, parce que j'ai été peu de temps ingénieur, mais quand j'étais ingénieur, oui, ça m'arrivait de faire beaucoup plus d'heures que ferait un employé. Et je le faisais avec la joie de le faire, avec un job qui me plaisait vraiment, dans un cadre royal, avec le confort possible pour exercer mon travail dans les meilleures conditions. Comment je compare ça en disant travailler dur par rapport à quelqu'un qui a certains boulots assez déshumanisants pour avoir travaillé pour des jobs d'été ou des trucs de ce type-là à l'usine? Je préfère faire 50 heures d'ingénieur dans certains cadres, enfin en tout cas dans le cadre qui était le mien, que j'aimais beaucoup, que 35 heures en chaîne d'assemblage. Donc là aussi, les réalités sont incomparables. Après, il y avait un deuxième aspect sur ta question, mais qui m'échappe. Est-ce que c'est pas injuste de le partager avec d'autres? Qu'est-ce qui fait que je devrais le partager? Je pense qu'il y a deux aspects sur cet argent qu'on a. Disons que mon salaire, je l'ai acquis de manière légitime. Et acceptons que j'ai travaillé dur pour avoir cette somme de manière légitime. Il y a deux choses. Il y a une question de justice, et la Bible est très claire sur le fait qu'il ne s'agit pas juste de générosité, mais de vivre dans un monde juste, dans lequel il est injuste que certaines personnes travaillent justement dur sans avoir un salaire minimum pour se payer un logement, pour permettre à leurs enfants d'avoir un accès à un système éducatif correct, etc. Et là, je parle que dans notre contexte, mais dans tout un tas de pays, ils peuvent travailler aussi dur qu'ils veulent. Probablement, une bonne partie de leurs enfants seront malades. Une partie, malheureusement, décédera pendant l'enfance. Ils seront trop malades pour pouvoir bien travailler à l'école, pour pouvoir bien travailler ensuite dans un... Donc, pour eux, il ne s'agit pas de travailler bien, il s'agit de naître dans un autre pays, d'une certaine manière. Et donc, pour eux, il s'agit vraiment d'une question de justice, de dire, il est injuste que moi, quand je travaille, j'en récolte les fruits assez facilement. Certains, lorsqu'ils travaillent dur, n'arrivent pas à en récolter les fruits. Donc, il y a un vrai enjeu dans ma générosité, qui est plus un enjeu de dire que je suis quelqu'un de gentil, à donner de l'argent, mais plutôt que je suis en train de participer à un monde plus juste. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi le fait d'être quelqu'un de gentil, entre guillemets, que l'amour du prochain, c'est une question de l'amour aussi. Et que dans ce sens-là, on n'est pas en train de se faire voler notre argent qui est notre précieux, mais on est en train d'aimer et on a la chance de pouvoir aimer aussi avec notre générosité.
Vous pourrez retrouver le mois prochain la deuxième partie de cet entretien. En attendant, vous pouvez accéder aux ressources de la Journée du Sel en vous inscrivant gratuitement sur notre site internet www.selfrance.org. Vous y trouverez un autre contenu de réflexion de Clément Blanc parmi beaucoup d'autres ressources. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.